Notre Père et notre Dieu, avant de nous asseoir à tes pieds pour te tendre une oreille attentive et recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous, avant de disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir tout ce qui va sortir de ta bouche, nous aimerions te dire merci pour ces moments, Seigneur, qui nous ont permis de nous approcher de toi pour t'encenser avec notre louange, notre adoration. Te dire merci pour l'amour que tu as envers nous, Seigneur. Cet amour qui t'a amené à nous chercher, à nous trouver, à nous délivrer du pouvoir des ténèbres, à enlever, Seigneur, de nos vies tout ce qui était en abomination à tes yeux. Après nous avoir fait naître à la nouvelle vie en Christ, tu nous as adressé cette sainte et merveilleuse vocation d'être des sacrificateurs dans ton royaume. Et ces moments nous ont permis, Seigneur, oui, de nous exprimer librement devant toi. Aide-nous, ô Dieu, à découvrir le bonheur qu'il y a devant ta face, à découvrir, Seigneur, les merveilles de ta présence, les merveilles de ton palais céleste. Oh, merci, non seulement d'avoir accueilli favorablement, Seigneur, nos prières, mais merci aussi de nous avoir accueillis nous-mêmes en ta présence. Car nous sommes, Seigneur, tes enfants, nous sommes ton peuple, nous faisons partie de ces hommes et de ces femmes qui appartiennent, Seigneur, à ta famille, à la famille céleste. Oh, merci pour tout. Maintenant, nous te prions de nous parler, Seigneur, et pour cela, nous demandons à ce que tu poses ta main sur ton serviteur pour l'assister, ô Dieu, dans cette tâche ô combien difficile, de proclamer, Seigneur, cette parole pure, cette parole sainte, Seigneur, de proclamer cette parole puissante avec force, avec dynamisme. Oui, parle-nous. Dépose ta pensée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Bien, nous allons revenir à notre thème. Nous n'avons pas encore fini avec ce thème ô combien important, savoir comment voir l'invisible. La foi de Dieu, la foi en Dieu. C'est donc le 11e épisode et j'espère que nous allons bientôt terminer pour commencer l'autre vérité, car nous avons besoin de deux vérités essentielles qui doivent nous habiter si nous voulons, mes amis, développer cette capacité en nous de voir au-delà du visible, de contempler les réalités spirituelles. Nous devons être habités par ces deux vérités, car ce sont les vérités qui ont habité l'apôtre Paul, qui ont habité Moïse. Et tous les deux ont marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. Tous les deux, mes amis, avaient fini par développer cette capacité de voir au-delà du visible. Cette capacité, mes amis, d'être pleinement conscients des réalités spirituelles qui les environnaient. Et pour avoir vécu, mener une vie qui reposait sur ces deux piliers, eh bien, ces hommes et ces femmes ont marqué la vie à tout jamais de toute la Bible, ont écrit en lettres d'or les pages les plus glorieuses de l'histoire de la révélation écrite. Alléluia. Et ces deux vérités essentielles, je vous rappelle simplement, sont la foi. Que ce soit Moïse, que ce soit Paul, eh bien les deux ont été des hommes de foi, des hommes qui ont vécu par la foi, des hommes, mes amis, qui se sont levés et qui ont avancé dans la vie en ayant leur regard rivé, fixé sur le Seigneur de gloire, mais ils ont été également des hommes qui ont vécu au quotidien le renoncement à soi. Voilà. Si nous sommes imbus de nous-mêmes, si nous ne vivons pas la réalité de la mort à soi-même, si nous ne vivons pas cette parole que le Seigneur nous a laissée selon laquelle, eh bien, nous devons nous régner nous-mêmes. Ensuite, nous devons nous charger de manière quotidienne de notre foi pour suivre Jésus. Eh bien, nous n'irons pas loin. Nous voulons aller loin, être conscients des réalités spirituelles, voir, mes amis, toutes ces réalités qui échappent au sens naturel. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre, mes amis, de mener une vie conduite par la foi, mais aussi une vie marquée par la mort à soi-même. Et gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la foi, peut-être même de terminer, avant de commencer l'autre vérité, à savoir le renoncement à soi. Nous allons relire notre texte de Luc. Luc, chapitre 17, à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient de champ, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous avons fait ce que nous devions faire. Que Dieu soit béni. Comment voir l'invisible? Deux éléments essentiels. Encore une fois, un petit rappel. Deux éléments. À savoir la foi et le renoncement à soi. Après avoir fait une sorte d'état des lieux, du monde invisible qui nous entoure, et ce, à partir d'un certain nombre de textes bibliques, après avoir fait le tour d'horizon, tous ces passages qui mettent en évidence, mes amis, cet environnement spirituel qui nous entoure, le tour d'horizon de tous ces passages qui nous montrent clairement que tout autour de nous, au-dessus de nous, il y a ce monde invisible, ce monde avec des réalités vivantes, des réalités que nous ne pouvons pas cerner, que nous ne pouvons pas appréhender avec notre sens naturel. Voyez-vous, ces réalités sont là et nous devons en être pleinement conscients. Ces réalités sont là et nous ne pouvons pas avancer dans la vie, mes amis, si nous ne réalisons pas cela et si nous ne développons pas, voilà, cette acuité visuelle, spirituelle qui nous permet de voir au-delà du visible. Et gloire au Seigneur. Des réalités spirituelles. Et c'est dans ce monde invisible, qui est pourtant réel, oui, dans ce monde-là, que nous trouvons nos vrais adversaires, comme l'apôtre Paul a exprimé dans Éphésiens. Nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'être humain, mais nous avons à combattre contre le pouvoir, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants, contre les esprits impurs, voyez-vous. Ce sont donc nos adversaires qui peuplent et habitent ce monde invisible. Et donc, nous devons être conscients, nous devons voir l'invisible. Et pour cela, comme je viens de vous le rappeler très brièvement, pour cela, nous avons besoin de foi. Voyez-vous, pour cela, nous avons besoin du renoncement de soi. Et depuis plusieurs dimanches, eh bien, nous sommes dans la première vérité, le premier pilier dont nous avons besoin si nous voulons développer cette capacité à voir l'invisible, à savoir la foi. Et comme nous l'avons vu à plus d'une fois, cette foi dont il est question, cette foi que les disciples ont demandé au Seigneur, les apôtres ont demandé au Seigneur, n'a rien à voir avec la foi du salut, puisque la foi du salut n'est pas quantifiable. Voyez-vous, on ne peut pas avoir une petite foi du salut et puis une grande foi, non pas du tout. On est sauvé une fois pour toutes, alléluia, par la foi. Mais cependant, la foi dont il est question ici, nous en avons parlé, celle que les apôtres demandent, eh bien c'est cette foi qui déclenche les lois du royaume de Dieu et qui nous permet d'expérimenter le règne de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est cette foi qui nous fait entrer dans le surnaturel. Cette foi, mes amis, qui nous amène à faire descendre le ciel sur terre. Cette foi qui nous amène à aller de l'avant, quels que soient les obstacles, à chasser les démons, à chasser tout obstacle, la maladie ou tout autre, mes amis, obstacle. C'est cette foi-là dont il est question. Et par rapport à cette foi-là, nous l'avons vu. Eh bien, la réponse du Seigneur n'a pas consisté à leur donner une recette faite en disant, voilà, vous voulez avoir cette foi, vous voulez que cette foi augmente, qu'elle grandisse, qu'elle croisse, eh bien voilà la recette spirituelle. Non, pas du tout. Le Seigneur va répondre à leur demande, à leur requête, par un enseignement. Et cet enseignement, mes amis, est très profond. Si nous voulons grandir dans la foi de Dieu, cette foi qui appelle à l'existence de choses que nous ne voyons pas encore. Là où personne, dit qu'il n'y a pas de solution, mais nous appelons la solution. Nous déclarons la solution. Nous ordonnons la solution. Alléluia. Eh bien, cette foi-là est appelée à naître. Mais elle naît dans certaines conditions. Et nous l'avons vu. Et dans cet enseignement que nous trouvons ici, eh bien, nous voyons toutes les conditions, mes amis, que nous devons remplir en amont pour pouvoir expérimenter cette foi en aval. Très brièvement, la principale leçon que nous trouvons dans cette parabole s'articule autour de la relation, d'une part, du serviteur avec son maître et du serviteur avec les biens, et d'autre part, la relation du serviteur avec les biens qui appartiennent au maître. Alléluia. Le serviteur est appelé à être actif dans tout ce qui appartient au Seigneur. Voilà la première condition, voyez-vous. Et nous avons vu combien nous sommes tous appelés à partir de dons, à partir des talents dont le Seigneur nous a dotés, eh bien, être actif dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez, mes amis, aller plus loin, si vous voulez remplir une des conditions qui vous permettent de voir naître en vous cette foi dont vous avez besoin pour expérimenter le miracle, apprenez à être actif dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a tant à faire dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui sont là comme des simples spectateurs qui viennent à l'église, qui écoutent et qui s'en vont pour revenir le dimanche prochain. Mais essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez être actif dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, actif sur le plan spirituel, actif sur le plan social, actif sur le plan matériel. Oui, il y a tant de choses à faire. Voilà donc ce dont il a été question. En tant que serviteur, en tant que doulos, en tant qu'esclave de Jésus, eh bien nous sommes appelés à avoir une relation. Voyez-vous, je dis bien une relation avec tout ce qui appartient au Seigneur. Et veillez à ce que cette relation croisse. Voyez, si aujourd'hui nous faisons deux choses pour le Seigneur, eh bien que demain nous en fassions quatre. Que le lendemain nous en fassions huit. Oh, alléluia. Et donc nous devons veiller sur cette relation. Et pour vivre pleinement cette relation, nous avons besoin de ne jamais oublier quelle est notre condition. Nous sommes des esclaves de Jésus. Tous les apôtres, Les premiers disciples étaient conscients de cette vérité. Être serviteur du Christ, être son esclave. Et qu'est-ce qui caractérise un esclave? L'esclave, mes amis, n'a plus de volonté si ce n'est celle de son maître. L'esclave appartient entièrement à son maître. L'esclave dépend entièrement de son maître. Alléluia. Et nous aussi, nous devons avoir cette mentalité de serviteur esclave pour pouvoir servir le Seigneur. Il n'y a pas de patron dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs, tous logés à la même enseigne, celle de la grâce. Peu importe le titre que nous avons, peu importe le genre de ministère que nous avons, eh bien, nous devons jamais oublier que nous sommes des serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Et en tant que tel, il n'y a pas de grand ou de petit serviteur. Comme quelqu'un l'avait dit, si quelqu'un pense qu'il est un grand serviteur, alors il cesse d'être serviteur. On est serviteur, point barre. Alléluia. Car il n'y a pas de petit service dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu est grand. Alléluia. Contente-toi de ce que Dieu attend de toi. N'essaye pas d'imiter l'autre. N'essaye pas de simuler pour te mettre en évidence. Si tu n'as pas été appelé à la prédication, contente-toi de ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Dieu ne t'en voudra jamais. Il ne dira jamais, mais pourquoi tu ne t'es jamais levé pour prêcher? Parce qu'il ne t'aura jamais donné quelque chose dans ce domaine-là. Voyez-vous? Aujourd'hui, tout le monde veut faire n'importe quoi. On voit telle personne faire ceci, eh bien moi aussi je vais le faire. Es-tu appelé à cela? Voyez-vous? Tout le monde est devenu enseignant. Quelle catastrophe! Voyez-vous? Tout le monde est devenu prédicateur de la parole. Et on voit aujourd'hui l'état de l'Église. Une Église immature. Avec ce genre de prédicateurs qui n'ont jamais été appelés, mais qui se sont autoproclamés, eh bien, on a fabriqué des chrétiens immatures, des chrétiens intéressés, des chrétiens qui suivent Jésus par intérêt, pour avoir un mari, pour avoir une épouse, pour connaître une certaine élévation sociale, etc. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons des véritables disciples du Christ. Ce qui me sidère aujourd'hui. Mes amis, c'est de voir l'immaturité dans le chef des chrétiens. Les gens ne lisent plus la Bible. Ils sont prêts à acclamer n'importe qui s'élèverait et qui se présenterait comme celui-ci ou comme celui-là. Apôtre, bishop, tout ce que vous voulez. Voyez-vous? Je ne suis pas contre ces titres. Ça se trouve dans la Bible. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme docteurs. Ou enseignant, évangéliste, pasteur, prophète. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le ministère tel que le Seigneur en parle dans sa parole. Aujourd'hui, c'est devenu des moyens de valorisation. Voilà. On pense que quand on prend un titre, évêque, archevêque, il y a même des cardinaux aujourd'hui, des souverains sacrificateurs, des patriarches, tout ce que vous voulez, en prenant ce titre, ça apporterait une sorte de plus-value à notre ministère ou même à notre vie. Non! Contente-toi de ce que tu es. Si Dieu t'appelle à être pasteur, tu es berger. Et un pasteur, eh bien, est aussi prophète dans le sens où il parle de la part de Dieu. Évidemment, il y a des prophètes. Mais si tu n'as pas été appelé, n'essaye pas de simuler. Voyez-vous, donc être actif dans ce qui appartient au Seigneur. Voilà ce que nous avons vu jusque-là. Nous avons parlé de Tabitha, nous avons parlé de Corneille. Vous vous rappelez, c'était des gens très très actifs. Ils ont posé des gestes, ils ont posé des actes. Et ces actes se sont dressés devant Dieu comme un mémorial. Et puis un jour, le Seigneur a vu ce qu'ils faisaient. Il s'est souvenu d'eux, il est venu à leur rencontre. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième type de relation. Il y a la relation avec les biens qui appartiennent au maître. Là, nous sommes sur le plan horizontal. dans l'horizontalité, mais il y a aussi la relation avec le maître. Oh, alléluia. Le serviteur a une relation particulière avec la personne de son maître. Voilà la deuxième vérité. Être actif dans les choses de Dieu, sans avoir une relation avec le Seigneur, ne sert à rien. Ça serait une sorte d'activisme morbide, funeste, comme on en trouve dans l'Église. Des gens courent partout, ils essayent de faire ceci, mille et une choses, sans entretenir une relation intime avec le Seigneur. Voyez-vous, j'ai commencé par la relation horizontale, pour terminer avec la relation verticale, qui est la plus importante, alléluia. De cette relation dépend de l'autre que nous avons examiné jusque-là. Donc le serviteur a une relation avec son maître, avec la personne de son maître. Il est appelé, mes amis, non seulement à être actif dans les choses qui appartiennent à son maître, l'Église comme champ du Seigneur, l'Église comme troupeau du Seigneur, à être actif dans le domaine social, etc. Mais il est aussi appelé, surtout appelé, à avoir une relation avec son maître. Oh, gloire au Seigneur. Que doit-il faire? Eh bien, il doit prendre soin de son maître. D'après la parabole, voyez-vous, verset 8, ou verset 7, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître le troupeau, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Verset 8, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, ce qui est formidable, il y a toujours un après cela. C'est-à-dire, après avoir fait tout cela, le maître promet que tu boiras. Le maître promet que tu mangeras. Nous avons là les besoins impérieux de l'homme. Si ces deux besoins ne sont pas rencontrés, c'est la mort assurée. Vous savez ça? Si vous vous abstenez de boire, vous abstenez de manger, eh bien, vous prenez le chemin de la mort. Donc, ce sont deux activités impérieuses, deux besoins fondamentaux impérieux pour l'homme. Que doit faire le serviteur pour rester dans la parabole? Il doit préparer le repas pour son maître. Voilà. Voyez-vous? Préparer le repas, ça demande toute une organisation. Voilà. Il y a une préparation. On doit savoir ce que le maître aime, n'est-ce pas? Et comment il aime que les choses soient préparées. Voyez-vous? Préparer pour le maître. Et ensuite, lui donner à boire. Le serviteur doit savoir qu'est-ce qu'il apprécie, quelle boisson il prend quand il est à table. Voyez-vous? Et donc, vous voyez, mes amis, que après avoir travaillé, après avoir transpiré, après avoir enduré la chaleur du jour, eh bien, le serviteur revient à la maison. Au lieu que son maître lui dise, « Ok, très bien, tu as travaillé, tu as pris soin de mes troupeaux, tu as travaillé dans le champ, etc. Serviteur formidable, extraordinaire. Eh bien, viens, allez, assieds-toi. Prends le repas, tu manges. » Non. Quand il revient, malgré son état de fatigue, il doit s'occuper de son maître. Alléluia. Préparer à manger. Le servir. Lui donner à boire. Nous avons là deux tâches domestiques. Deux tâches domestiques d'une importance capitale. Deux tâches, mes amis, deux responsabilités qui demandent une certaine intimité entre le maître et son serviteur. Vous êtes toujours avec moi? Voilà, très bien. Ce n'est pas n'importe quel serviteur qui débarquerait et se mettra à servir son maître. Pas du tout. Voilà. Et donc, il y a un lien. Il y a une relation entre le maître et son serviteur. Et donc, il faut absolument une intimité. On ne peut pas servir le maître en étant dans n'importe quel état. Voyez-vous? Aller se cindre, aller se préparer. Voyez-vous, comme il nous a dit, eh bien, mets-toi en tenue, change de tenue. Voyez-vous? Lave-toi. Car tu ne peux pas me servir dans cet état dans lequel tu te trouves. Voyez-vous? Donc, il y a des conditions à remplir pour pouvoir servir le maître. Et gloire au Seigneur. Donc, comme nous pouvons le voir, ces deux activités impliquent, demandent une certaine intimité avec le maître, puisque ce sont deux activités qui se déroulent non pas à l'extérieur de la maison, mais plutôt dans la maison du maître. Alléluia. Et par rapport à cette activité-là, eh bien, le serviteur a enfin l'occasion de voir la face de son maître, d'entendre la respiration de son maître, alléluia, de sentir le cœur du maître battre, oh alléluia, d'apprécier la personne de son maître, voyez-vous. Donc, nous devons être conscients qu'il y a la responsabilité en dehors, parmi les choses de Dieu, le champ de Dieu, le troupeau du Seigneur. Mais il y a aussi des activités à faire dans la maison du Maître. Et cela, mes amis, et ça m'amène à revenir au message que nous avons eu il y a quelque temps d'ici, concernant la double vocation du chrétien. Vous vous rappelez? Notre première vocation, c'est laquelle? Nous sommes des sacrificateurs dans le royaume de notre Père. Nous sommes donc appelés en tant que sacrificateurs à aller au-delà du voile, à entrer dans le palais céleste où il siège en majesté, pour l'encenser, pour le servir avec notre louange, avec notre adoration. Oh, alléluia! Pour avoir un face-à-face avec lui, mieux avoir un cœur en cœur avec lui. Et donc, tout cela, ce sont des activités qui ont lieu dans la maison du maître et qui demandent à ce que certaines conditions soient remplies pour pouvoir enfin servir le maître, voir son visage, le contempler, admirer sa beauté, voir sa grandeur, se dire quelle grâce d'être au service de ce maître, maître tout puissant, le maître qui tient ma vie dans sa main. Mes amis, nous voyons, nous revenons à ça. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à entrer dans la maison de notre Père pour le servir, à l'instar de cet esclave qui, après avoir pris soin du troupeau du maître, de son maître, du champ de son maître, rentre à la maison. Et arrivé à la maison, eh bien, il se prépare. Il change de vêtements. Parce que l'activité à laquelle il va désormais se livrer est une activité solennelle. Alléluia. Qui demande à ce que nous soyons préparés. Gloire à Dieu. Donc pour accomplir ces activités domestiques, le serviteur doit se cindre. Il doit se mettre en tenue. S'il doit se mettre en tenue, donc il doit enlever ce dont il avait besoin pour servir, n'est-ce pas? Pour prendre soin du troupeau, pour s'occuper du champ du maître, et revêtir cette fois-ci le manteau qui va lui permettre de pouvoir servir son maître. Alléluia. Et gloire au Seigneur. C'est une activité solennelle. C'est une activité unique. Et là, devant son maître, dans le cas de notre Père, eh bien, il y a d'autres créatures merveilleuses qui sont là, les 24 anciens, assis sur leur trône, revêtus de blanc, avec leur couronne, qui se prosternent à chaque instant, et qui proclament la grandeur infinie, la sainteté, l'amour, la gloire du Dieu de la Bible. Alléluia. Et nous, Nous avons ce privilège de rejoindre, mes amis, toutes ces gloires célestes et de nous mettre à notre tour à servir le Seigneur. Ce qui est formidable, c'est que la louange des anges, la louange des archanges, la louange de toutes ces créatures merveilleuses, mes amis, de ces gloires célestes-là, eh bien, n'empêche pas Dieu de recevoir notre louange. Quelle grâce! Les anges l'adorent de manière parfaite. Les anges l'adorent de manière parfaite. Voyez-vous? Nous sommes encore dans ce corps de chair. Voyez-vous? Nous sommes encore dans ce corps avec toutes sortes de propensions au mal. Nous avons à chaque fois besoin de nous repentir. Malgré tout cela, eh bien Dieu a du temps à nous accorder. Dieu accueille favorablement nos prières qui montent vers lui comme de l'encens d'une agréable odeur. Quelle grâce! Oh, alléluia! Pour s'acquitter de cette responsabilité de servir son maître, après s'être préparé, après s'être tenu changé de tenue, eh bien, je vais recourir encore une fois un tout petit peu au grec. Je suis convaincu qu'avec tout ça, vous deviendrez des spécialistes du grec biblique. Rappelez-vous que le serviteur, il est doulos, c'est-à-dire il est esclave. Il faut noter, mes amis, il est doulos. Il travaille dans le troupeau de son maître. Il travaille dans le champ de son maître. C'est un doulos. Quand il rentre à la maison, mes amis, eh bien, il devient domestique. Alléluia. Il devient domestique. Et en grec, c'est un autre terme. Oiketes. Oiketes. C'est-à-dire le domestique. C'est-à-dire celui qui appartient à la maison. Le grec, mes amis, a plusieurs termes pour parler du serviteur. Voyez-vous? Et dans nos Bibles, nous traduisons partout serviteur. Voilà. Le grec a plusieurs termes. Voyez? Diakonos, c'est un serviteur. Oui ou non, ce qui a donné diacre ou diakonès. Doulos, c'est un serviteur esclave. Et ici, oui, en cet endroit, oiketes, c'est aussi serviteur, mais domestique. Mais nous traduisons partout serviteur, serviteur, serviteur. Le domestique, c'est celui qui a la grâce. Certains d'entre nous ont des domestiques à la maison, n'est-ce pas? Voilà. Il y en a d'autres qui ont des jardiniers. Mais le jardinier, eh bien, s'arrête à l'extérieur. Oui ou non? Son travail, c'est d'arranger les jardins, c'est les plantes, d'arroser les fleurs, etc. C'est tout. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la maison. Il y en a qui ont des gardes ou des surveillants. Eux aussi sont à l'extérieur. En revanche, il y en a qui ont des domestiques. Et ces domestiques-là ont le privilège de préparer pour eux, d'arranger leur chambre à coucher, le lieu de l'intimité. Oh, alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Oiketes. De doulos, il devient oiketes. Il devient domestique. Il doit donc être maintenant conscient qu'il n'est plus dans le champ. Il n'est plus parmi le troupeau. Cette fois-ci, il est dans la maison de son maître. Il doit servir son maître, pas n'importe comment. En ayant n'importe quelle tenue, il doit être le serviteur domestique. Alléluia. Pour vous permettre de voir comment le grec a plusieurs termes pour parler du serviteur, dans Luc 16, 13, c'est ma petite Bible en grec là. Luc 16, 13. Voilà. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Eh bien, voilà, je suis là. Oiketes. Là, on a traduit par serviteur, c'est oiketes. Aucun oiketes, donc aucun domestique, ne peut servir deux maîtres. Tu es dans la maison du maître. Il n'y a pas deux maîtres. Il y a un seul maître. Si tu veux être à son service, et en même temps être au service d'un autre maître, tu devras quitter la maison. Parce que dans la maison, il est le seul. Il est assis sur son trône. Et donc, tu ne peux pas. Et là, on comprend encore mieux. Aucun domestique ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un, aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Tu es dans la maison. Donc, si tu veux servir un deuxième maître, il faudra quitter la maison. Car le maître, ton maître actuel, ne permettra pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne dans sa maison et qui se proclame aussi maître. Il y a un seul maître. Il y a un seul Seigneur. Et Dieu veut que nous lui appartenions totalement, entièrement. Il ne veut pas nous partager. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eh oui. Aucun domestique. Voilà le terme. En grec, mais nous avons traduit par serviteur. Mais il y a, j'ai une version ici, qui elle a traduit, aucun domestique ne peut servir de maître. Parce que quand on est domestique, on est censé servir dans la maison. Et donc si tu veux avoir un deuxième maître, eh bien le maître te dira simplement, alors dans ces cas, quitte ma maison, va chez ton deuxième maître. Alléluia. Un autre exemple, acte 10, Corneille. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. C'était un officier de l'armée romaine. C'était un centurion. Vous voyez? Et donc, il avait plusieurs soldats à son service. Il avait à son service plusieurs serviteurs. Voilà. Mais il appela. Et ici, le mot serviteur, c'est de nouveau oiketes. Vous voyez? C'est-à-dire, il appela deux de ses domestiques. C'est-à-dire de gens qui lui sont proches. Vous voyez? De gens qui il avait confiance. Car vous ne pouvez pas permettre à n'importe qui vous servir à manger si vous ne savez pas qui il est. Surtout dans le contexte de chez nous aujourd'hui, on parle beaucoup de poison, etc. Hein? Donc vous devez être sûr de la personne qui s'occupe de vous. De la personne qui est active dans votre maison. Donc là, avec Corneille, c'est une fois de plus domestique. Deux de ce domestique, il va les envoyer. Plus un soldat pieux. Et puis un Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Encore une fois ici, c'est oiketes. Oiketes, donc, domestique. Soyez en toute crainte soumis à parce que vous travaillez dans la maison. Voilà. Et donc, pour ce service-là, on doit passer de doulos à oiketes, d'esclaves dans le champ du Seigneur, d'esclaves prenant soin des troupeaux du Seigneur, on devient oiketes, domestique dans la maison du Seigneur, alléluia, chargé de le nourrir. Donc vous voyez, mes amis, comme le Seigneur lui-même le dit, il faut que le maître dit, prépare-moi le repas pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, donc, je dois manger, je dois boire. Ceci nous montre, mes amis, que le maître reste la priorité du domestique. Le domestique ne mange pas avant son maître. Vous qui avez vos domestiques là, ils préparent d'abord pour vous, oui ou non? Ils apprêtent la table, ils mettent tout à table, et c'est seulement par après qu'eux aussi se retirent. J'espère que vous donnez à manger à vos domestiques, hein. Oh, non, oui, mais attention, hein. Nous devons les aimer, hein. Ce sont des êtres humains pour lesquels Jésus a donné sa vie. Voilà. Ne soyez pas radins envers eux. Soyez sensibles à leurs besoins. Ne vous comportez pas comme si c'est comme vous étiez leur créateur. Attention. Vous risquez un jour d'avoir des problèmes avec leur créateur. Mais enfin, bref. Voyez? Et donc, le maître, sa priorité pour le serviteur. Alléluia. Une priorité absolue. Donc, nous voyons, mes amis, qu'après nous être occupés de choses qui appartiennent au Seigneur, après avoir fait ce qu'il attend de nous par rapport à son œuvre, par rapport à l'Église, par rapport au monde, puisque nous sommes la lumière dans ce monde, nous sommes appelés à être des témoins de sa puissance de résurrection dans ce monde, eh bien, après tout cela, il s'attend à ce que nous puissions enfin entrer dans sa présence pour le servir. Ce service le plus noble qui soit, oh alléluia, où j'oublie tout, j'oublie la prédication, j'oublie l'exhortation, j'oublie le chant, et je m'approche de lui, et j'entre dans sa présence. Il n'y a que lui. Si je dois chanter, c'est devant lui que je chante, pas devant l'assemblée. Oh, alléluia. Je suis là pour lui parler. Je suis là pour l'encenser et pour l'adorer. C'est le ministère. C'est le service dans la présence du Seigneur. Service d'adoration. Service de louange. D'action de grâce. Tout cela, comme nous l'avons déjà vu, c'est un service en rapport avec les activités sacerdotales. Oui. Le serviteur, doulos, doit savoir que le maître a des attentes par rapport à lui. Il a travaillé dans son champ, il a travaillé parmi ses brebis, son troupeau. Quand il rentre à la maison, eh bien, il doit savoir que le maître a des attentes vis-à-vis de lui. Voyez-vous? Tu as fait des choses pour moi, oh très bien ma fille. Très bien, mon fils. Maintenant, voilà ce que j'attends de toi. Mon attente vis-à-vis de toi. Tu dois te ceindre. Tu dois te mettre en tenue de louange, en tenue d'adoration, pour t'approcher de moi et enfin me servir. Oh, alléluia. Et c'est donc un service au-delà du voile. Voyez-vous, où nous nous présentons nous-mêmes. Nous nous offrons entièrement lui. Seigneur, me voici tel que je suis. Voyez-vous? Et quelquefois, nous n'avons pas de mots, mais tout notre être vibre en sa présence. Quelquefois, nous l'avons loué, adoré, avec notre langue. À un moment, notre langue s'avère incapable. Eh bien, là, nous nous tournons vers le parler en langue. Voilà. Nous continuons à le louer. Nous continuons à l'adorer. Mes amis, voilà comment la foi de Dieu pénètre. Cette foi qui peut nous faire entrer dans l'univers des spirituels. Comment n'est-elle, en résumé, pour terminer, comment cette foi n'est-elle? Eh bien, c'est au travers d'une vie vécue dans la mentalité d'esclave. Une vie vécue, mes amis, dans la relation avec le Seigneur. Une relation intime avec lui. Dans la relation avec tout ce qui appartient au Seigneur, voyez-vous, c'est seulement dans ces conditions-là que la foi de Dieu va naître et qu'elle va aussi croître. Augmente-nous la foi, le Seigneur répond par cette parabole. Sois actif dans ce qui m'appartient, mais sois actif aussi envers moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, quand on analyse cette relation, que ça soit sur le plan horizontal ou vertical, eh bien, on peut voir que la motivation reste la même. L'amour, alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour, qu'il s'agisse des biens du Seigneur, qu'il s'agisse de l'œuvre de Dieu, mes amis, qu'il s'agisse du ministère, nous devons avoir comme motivation l'amour, et non pas la cupidité, et non pas un quelconque intérêt. Je fais ceci pour que le Seigneur en retour me récompense. N'ayez pas cette pensée. Faites-le parce que vous l'aimez. Alléluia. Approchez-vous de lui parce que vous l'aimez. Ne vous approchez pas parce que vous voulez absolument qu'il vous donne quelque chose. Nous devons arrêter avec ce genre de relations intéressées. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Que nous mangeons, que nous ayons faim, il reste notre Père. Et il nous demande de l'aimer. Et cette relation dans les deux sens, verticale comme horizontale, demande de l'abnégation, du don de soi-même, de la consécration. Mes amis, la foi qui nous fait entrer dans l'univers des miracles, dans la puissance de Dieu, la foi qui nous permet, mes amis, de déplacer les montagnes, quelles qu'elles soient, en proclamant, en déclarant, sous l'autorité de Dieu, du Seigneur, cette foi qui nous amène à expérimenter l'autorité, sa puissance, est bien le résultat, est bien la résultante d'une vie active dans les choses du Seigneur, n'est-ce pas? Et dans le cas de notre parabole sur le labourage et l'élevage, et aussi une vie vécue dans le service envers la personne du Seigneur. Et tout ceci dans un climat, évidemment, marqué par l'amour, par une soumission inconditionnelle à Dieu. Alléluia. Très schématiquement, j'aurais aimé vous faire un petit schéma. Nous avons tous eu de cours de mathématiques, c'est pas compliqué. Vous avez l'ordonnée et ordonnée abscisse, n'est-ce pas? Je voudrais que ce schéma reste en vous. Sur l'ordonnée, vous mettez le service envers le Seigneur. Sur l'abscisse, vous mettez le service envers. Et à l'intersection, il y a une droite qui va naître, la bisectrice. Alors, plus le service envers le Seigneur va grandir, et le service envers, plutôt, dans ce qui concerne Dieu, et le service envers le Seigneur, eh bien la courbe sera montante. Oh, alléluia. Voyez-vous? Et donc il faut que les deux aillent ensemble. Voilà. Si maintenant, vous demeurez seulement sur l'ordonnée, mais vous ne faites rien au niveau de l'abscisse, vous n'irez pas nulle part. Oui ou non? Maintenant, si seulement vous êtes sur l'abscisse, vous avancez très actif, gauche à droite, mais sur l'ordonnée nulle part, il n'y aura rien. Il faut que les deux aillent. À ce moment-là, la foi va naître. Que Dieu soit béni. Voilà comment cette foi va naître. Alors, mes amis, soyez actifs envers le Seigneur, comme sacrificateurs, mais soyez aussi actifs dans les biens qui appartiennent au Seigneur. Avec tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Merci. Voyez-vous, servez-le. Impliquez-vous dans les différents départements. Mettez à sa disposition tout ce que vous avez reçu. Les dons spirituels, toutes sortes de talents, même les biens matériels, l'argent, tout ça, avec ça, servez le Seigneur. En le servant de cette manière, mes amis, eh bien, vous aurez rempli des conditions en amont, afin que la foi naisse en aval et vous fasse entrer dans le domaine du surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner notre tête dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu et lui demander de nous aider nous aider à être actifs dans notre relation avec lui, à rester actifs sur l'ordonné, mais aussi actifs dans les choses de Dieu, avec tous les biens qu'il a mis à notre disposition. Tout cela doit servir son œuvre. Père, nous voulons te dire merci pour le message de ce matin. Nous avons tous, Seigneur, besoin d'expérimenter ta puissance au quotidien. Nous avons besoin, Seigneur, que tu augmentes notre foi. Cette foi dont nous avons besoin, Seigneur, pour expérimenter ton règne dans nos situations, quelles qu'elles soient. Cette foi dont nous avons besoin pour entrer dans l'univers du surnaturel, dans l'univers des miracles. Cette foi dont nous avons besoin pour déplacer n'importe quelle montagne. Seigneur, ordonner aux choses et voir les choses se passer comme nous l'aurons proclamé par la foi. Oui, cette foi-là, Seigneur, née d'une vie active envers toi, mais aussi envers tout ce qui t'appartient. Merci de nous aider à être actifs dans ce qui t'appartient, mais aussi actifs envers toi. Merci pour tout. Et merci aussi.